C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Premier sujet ce matin, c'est l'idée de Vincent Marissal, donc de Québec solidaire, de proposer d'encadrer les tarifs dans les cliniques médicales privées, on entend. On a vu en fin de semaine le reportage sur l'accès aux médecins de famille dans le Journal de Montréal. Alors, est-ce que de vouloir fixer les tarifs du privé, c'est une bonne ou une mauvaise idée, Nathalie?
C'est une très, très bonne idée. D'ailleurs, bravo à Vincent Marissal qui a fait cette suggestion vendredi dernier dans le cadre d'une interpellation avec le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. Vincent Marissal ne ménage pas ses mots pour qualifier le secteur privé en termes de tarification. Il parle de Far West, il parle de danger pour les patients de se faire arnaquer. La bonne nouvelle, c'est que le ministre de la Santé a manifesté l'ouverture. Il dit on pourrait s'inspirer de l'Ontario qui a procédé à ce genre d'opération, c'est-à-dire mieux encadrer la tarification qui est offerte par les cliniques privées. Dans un souci d'équité et de meilleure protection du public, moi, je crois qu'on est rendu là. D'ailleurs, le ministre et le ministre de la Santé et son ministère ont procédé déjà à un certain nombre d'encadrements pour ce qui est, par exemple, des médecins qui se promènent du public au privé. Le ministre de la Santé a annoncé ses couleurs. Il veut réduire la possibilité pour ces médecins de se promener entre le public et le privé. L'autre chose, on a également tenté de, avec une loi, le ministre veut réduire le recours aux agences privées. Il y a quelques années, rappelez-vous, on a fait le ménage dans les frais accessoires qui étaient demandés aux patients. Alors là, je pense qu'on est rendu là, c'est-à-dire faire le ménage dans la tarification. Et l'exemple concret qu'a donné le député de Québec solidaire, c'est l'examen, par exemple, pour un dépistage d'infections transmissibles sexuellement et par le sang. Il dit, dans certaines cliniques, on vous demande 80 $, dans d'autres, c'est 320 $, et tout ça pour un même test. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'il faut s'attaquer à cette disparité qui existe pour les mêmes tests dans différentes cliniques partout au Québec.
Moi, il y a deux types de privé. Là. C'est-à-dire que si c'est du privé, tu payes puis tu réclames rien à la Régie de l'assurance maladie, c'est une chose. Si tu réclames à la Régie de l'assurance maladie, c'en est une autre. Il n'y a jamais rien qui va empêcher deux adultes de consentants de faire une transaction sur un service en disant « Moi, je veux payer 400$ parce que je veux le service tout de suite puis je le réclame pas. » Ça, il n'y a rien qui va empêcher ça. Pour tout ce qui est réclamé à la régie par la suite, oui, il faut absolument réglementer. Puis même dans ce qui n'est pas réglementé par la régie, il faut donner une orientation. Les dentistes font ça. Et quand tu vas chez un dentiste, il y a telle intervention, ça devrait coûter à peu près tant, telle intervention. Pourtant, c'est du privé. Mais l'État va trouver un partenaire important dans cette bataille-là, ce sont les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, à un moment donné, vont dire, écoute, on est tout à fait d'accord avec l'idée de donner un barème pour dire, si tu fais tel type d'intervention, ça devrait être à peu près tel prix. Et si c'est deux fois le prix, il faut que tu le justifies. Il y a un impact du privé sur le public. Ça, c'est Anne Plourde qui sort un livre cette semaine, je crois que c'est cette semaine. En tout cas, moi, je l'ai lu là, qui est pour la chronique d'ailleurs, qui s'appelle Santé Inc. et dans laquelle elle dit il y a plein d'exemples où de la tarification au privé a un impact sur le public. Parce que si, par exemple, les psychologues, si la tarification des psychologues est très élevée au privé, à un moment donné, les psychologues au public vont dire je m'en vais. Tu vas pas, je vais pas rester là tranquille, assis à faire 90 000 $ par année, tandis que ma collègue fait 270 000 $ au privé.
Oui, mais là, juste pour reprendre ta phrase du début, moi je suis un psy, t'es mon patient. Je veux dire, je demande rien à l'État, là. Comment peux-tu déterminer, vas-tu faire ça pour les restaurants? Ce que je veux dire, c'est quand c'est une entreprise privée, un échange entre deux personnes.
Tu peux rien faire, mais il y aura un marché pour cette clientèle-là. Là. Moi, je veux payer, puis je vais payer, puis je vais l'avoir, le service.
Parce que j'attends pour un psy au public, puis je suis pas capable d'avoir de rendez-vous. Je suis prêt à payer pour mon enfant parce que là, je trouve que ça presse, là.
Tu sais, quand l'offre et la demande, là, quand il y a moins d'offres que de demandes, ça peut se traduire en deux choses. Soit une pénurie, soit une spéculation. Pénurie dans le système public. Tu vas attendre 6 mois, 8 mois, 10 mois. Ou spéculation. Je suis prêt à payer n'importe quel prix parce que j'ai pas le service puis je veux l'avoir. Donc, effectivement, on peut pas empêcher ça. Mais quand ça se produit, regarde, pendant la pandémie, justement, Anne Plourde donne l'exemple des psychologues qui ont augmenté leurs tarifs de 50% en 2021 et 2023. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui mettaient des prix très élevés puis continuent d'avoir de la clientèle. D'ailleurs, c'est la même chose avec les concessionnaires automobiles. Pourquoi les autos coûtent moins cher maintenant puis coûtaient plus cher? Parce qu'il y avait une pénurie il y a 2 ans. Alors, dès que ça monte très fort, puis il y a un impact sur le public. L'autre impact sur le public, c'est lorsque il y a une négociation de la convention collective. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les psychologues. Dans la convention collective, ils ont obtenu des chapitres qui ne concernaient que leur profession parce que tu peux faire énormément d'argent au privé. Le privé en santé, faut pas penser quand même que ça va occuper tout l'espace. Il va toujours avoir du public, il va toujours avoir du privé. La démonstration est faite par 1+1+1+1 que le public est moins cher que le privé. Alors, toutes les mesures qu'on peut faire pour protéger le public, ça va finir par protéger les citoyens.
Moi, je suis en désaccord avec vous deux lorsque vous affirmez qu'on ne peut pas empêcher ça. On peut établir des barèmes, par exemple, tel montant pour telle type d'intervention. Tout à fait, tout à fait, absolument.
Mais tu peux pas l'imposer.
N'oubliez pas qu'on a une loi canadienne. Ben, écoute, le ministre a quand même adopté une loi pour interdire le recours aux agences dans le domaine de la santé. Il veut faire la même chose pour encadrer le INC chez les médecins, c'est-à-dire il y a trop de médecins qui se promènent du public au privé. On a légiféré pour interdire
le public,
les accessoires.
Quand mettons, mon médecin est au privé, puis moi je suis au privé, c'est pas vrai que l'État va venir dire c'est quoi mon taux horaire. Si l'État paye pas, là, c'est toi qui payes.
Oui, je comprends. Mais pourquoi? Pour mieux protéger le patient. N'oubliez pas qu'on a une loi canadienne sur la santé dont l'objectif est de s'assurer que tous les Canadiens aient accès dans un contexte d'universalité aux soins de santé. C'est pas parce que tu as du privé que tu dois mettre l'âge dans ce principe qui est, selon moi, sacré puis qu'il faut viser à maintenir. Pour certaines interventions pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus. Le ministre a dit, écoutez, moi, je suis ouvert à cette possibilité. Entre l'ouverture qu'il a manifestée puis la faisabilité, il y a probablement deux mondes. Mais si j'étais ministre de la Santé, la première chose que je ferais, c'est de demander un avis au Collège des médecins. Parce que le Collège des médecins, rappelez-vous, il a fait le président, M. Maurice Godreau, là, il a fait une grande tournée à travers le Québec, puis il s'est inquiété du peu d'accessibilité dans certains coins du Québec pour ce qui est des soins de base en santé. Alors, le Collège des médecins, qui, lui, protège le public, devrait certainement avoir une opinion sur cet enjeu-là. Mais plus fondamentalement, ce qu'on n'a pas encore réussi à déterminer au Québec, parce que tous les chiffres le confirment. Là, on parle, par exemple, tu parles des assureurs, Luc. Là, les primes moyennes versées aux assureurs privés par les ménages québécois, là, c'est les risques qui dévoilaient ça il y a une année ou deux, ont presque doublé entre 2010 et 2019, passant de 613 à 1144 $. Tous les indicateurs, que ce soit pour le nombre, le pourcentage de chirurgie, le nombre d'employés qui travaillent au privé dans la santé versus le public, tous les indicateurs confirment que le privé a pris plus de place depuis 30-40 ans au Québec. Bon, à partir de ce moment-là, ce qu'il faudrait réussir à déterminer, c'est jusqu'où, comme société, on accepte la présence du privé en santé. On n'a jamais réussi à déterminer un pourcentage, un chiffre. Alors, parce qu'il y a le public qui a recours au privé, puis il y a les citoyens qui ont recours au privé parce que le public est incapable de leur offrir les services dont ils ont besoin. Mais collectivement, là, jusqu'où on est prêt à aller pour permettre au privé de continuer de prendre son essor? Moi, je pense que c'est une question qui est fondamentale.
Oui, mais c'est dur à contrôler, Nathalie, parce que quand il y a de l'argent à faire, tu peux pas empêcher un médecin de partir du privé, du public, puis d'aller au privé. Puis c'est ça qui s'est passé. Maintenant, on en a 500.
Mais tu peux le faire, Luc, le ministre de la Santé, il veut.
C'est-à-dire que tu peux empêcher de revenir.
Si je suis médecin puis je décide que bye-bye le système public,
oui, c'est ça.
Tu as le droit.
Oui. L'affaire, c'est que la loi actuelle te permet de revenir après un mois. Donc, il y en a qui programment une semaine d'intervention en hôpital à tous les mois en privé. Donc ça, la loi va permettre d'empêcher ça. Mais tu sais, le juste prix, là, le public a mis en place une procédure pour déterminer le juste prix qui ressemble à la construction des pyramides. Je veux dire, c'est en termes d'efforts, ils ont scanné, si tu veux, plus de 11 000 interventions. Puis ils ont dans le temps, ils ont fait ça dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ont regardé pendant plusieurs années combien coûtaient ces interventions-là. Ils les ont divisées en sous-groupes. Est-ce que tu as besoin des gants chirurgicaux ou pas? C'est quoi le type de local que tu as besoin pour faire cette intervention-là? Est-ce que combien de temps elle prend en moyenne selon l'âge des personnes, etc. Et ça a donné un registre du coût de l'intervention moyen qui est permis par la régie. Et ça, c'est une bureaucratie insondable. Hein. C'est sans fin parce que les interventions changent et au fur et à mesure où les interventions changent, il faut réajuster le tarif type. Comment on va faire pour déterminer ce qui est le bon tarif pour une intervention entre deux personnes au privé? C'est pas géré.
On s'arrête là-dessus. Au retour, on va vous installer une tour de 15 étages au coin de la rue chez vous. Puis on veut pas savoir ce que vous en pensez. C'est une bonne affaire, ça.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors, on sait que les villes veulent densifier la population. Et là, on parle de construire, par exemple, des immeubles avec plus de logements. Si vous avez un terrain à Saint-Hubert, par exemple, où il y a une maison unifamiliale, la maison est vendue, on la transforme et on installe 4 logements. Puis dans certains cas, des tours également, puis on veut permettre la construction. Alors, est-ce que les citoyens ont raison de s'opposer à la construction de ces multiples logements? Luc?
Non. Oui. Mais c'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que bon, il y a la loi 31, ça donne des super pouvoirs.
Comme me disait M. Duplessis, la meilleure façon, tu ne leur demandes pas ce qu'il en pense.
Oui, c'est ça.
Ça
maintenant que c'est construit, tu trouves tout ça beau.
C'est beau, finalement.
Mais bon, la loi 31 donne un super pouvoir aux villes, là où autrefois il y avait un référendum, un droit de référendum. Ce qui est un changement de zonage, une surhauteur, des choses comme ça, les citoyens peuvent aller en référendum. Fait que tu fais l'assemblée publique, tu dis voici le projet qui s'en vient. Et là, les citoyens signent un registre. La signature du registre, c'est les voisins de l'immeuble. S'il y a assez de noms dans la signature du registre, là, on s'en va en référendum. L'affaire, c'est qu'il y en a qui signent vite en maudit le registre. Donc, la moindre chose leur font peur. Là, t'sais. Et je l'ai vu souvent, là, des peurs, des craintes injustifiées. Il n'y a pas d'ombre portée sur leur bâtiment. Il n'y a pas de vent. Il n'y a rien. Mais c'est trop. Ça fait pas partie du cadre du quartier, selon eux. Puis, selon eux. Mais il faut faire attention. Là. Dans le pas dans ma cour, tu as tout puis son contraire. Moi, j'ai vu des gens s'opposer en disant ça va amener des problèmes de circulation. Tu regardes dans leur driveway, il y a 4 chars. Tu dis, vous, par contre, vous avez 4 voitures pour un bungalow, mais vous voulez surtout pas qu'il y ait 2 voitures supplémentaires dans l'immeuble d'à côté. Mais j'ai vu des gens parfaitement justifiés de résister, comme par exemple des gens qui ont fait très, très attention à leur environnement naturel, et puis que tout à coup, il y a quelqu'un qui dit, ben moi, je vais aller me construire dans le boisé à côté. Donc, il faut faire attention. Dans le pas dans ma cour, il y a une chose et son contraire. Un autre exemple que j'ai vu, c'est des gens qui s'opposent à la densité, mais ils se sont achetés un duplex, ils ont vidé ou un triplex, ils ont vidé tous les locataires, ils se sont construit une mezzanine, se sont construit une maison qui vaut aux 2 millions minimum. Un duplex avec une mezzanine sur le plateau, là, c'est rendu cher, là, entre 1,7 puis 2,3, mettons, millions. Et ces gens-là disent, oui, mais c'est parce que c'est pour garder ma famille en ville. Moi, c'est pour garder ma famille en ville, j'avais besoin de 5000 pieds carrés. Mais si par contre, quand tu fais un règlement pour dire ben il va y avoir à côté des logements pour les familles, c'est un gros non. Ils veulent pas. Ne pas se fier au slogan dans cette affaire-là. Est-ce que la densité c'est bon? Est-ce que la densité c'est pas bon? On le sait pas. Ça dépend du projet, ça dépend de son intégration architecturale, ça dépend du couvert boisé, ça dépend où il est, ça dépend est-ce que oui ou non il va participer à une densification qui va permettre d'avoir plus de services, par exemple, des commerces, une école, etc. Tu construis une tour dans un quartier résidentiel qui va avoir zéro impact sur le logement abordable, le logement pour les familles, le commerce, puis qui va avoir plein d'impact sur les voisins, ben c'est non la réponse. Et de dire, comme les promoteurs, faut absolument construire, donnez-nous le droit absolu de construire partout? Non.
Ben, faut jamais oublier que les promoteurs, ce sont pas les décideurs, hein. Puis l'enjeu de la densification, ça appartient aux villes et non aux promoteurs. Et le leadership sur cette question doit toujours demeurer entre les mains des élus. Est-ce que les citoyens ont parfois le droit de s'opposer? Oui, ils ont toujours le droit de s'opposer. Est-ce que leurs arguments sont valides? Parfois oui, parfois non. Mais faut dire que les super pouvoirs, là, ou le super pouvoir conféré par la loi, il est encadré. On parle d'un pouvoir temporaire de 3 à 5 ans pour les villes de 10 000 habitants et plus, où le taux une occupation est en bas de 3 %, c'est-à-dire toutes les villes de 10 000 habitants et plus au Québec. Et on dit que ce pouvoir pourrait être exercé pour des immeubles d'au moins 3 logements, abordables ou pas. Alors, ce qui est intéressant avec ce super pouvoir, c'est que on veut éviter que le processus de consultation citoyenne se transforme en droit de vie ou de mort sur un projet qui pourrait être aux yeux de l'administration justifié. Mais il y a plusieurs enjeux qui sont rattachés à cette nouvelle possibilité pour les élus d'intervenir. Le premier, c'est dans un contexte de pénurie de logements, est-ce qu'on peut construire plus vite? Parce que ce qu'on a évalué au ministère, ce qu'on a évalué du côté du gouvernement et du côté de l'UMQ, c'est qu'on va réduire les délais d'approbation pour construire du logement de 3 à 4 mois plutôt que de 8 à 18 mois actuellement. Là, je parle du délai d'approbation, pas de construction. Alors, les villes, puisqu'elles elles pourront ne plus tenir compte ou ne plus tenir de référendums locaux sur un enjeu précis, elles vont effectivement pouvoir accélérer le processus d'approbation de certains projets. Mais clairement, ça renvoie aussi à la façon dont on veut densifier nos milieux. Par exemple, à Québec, et moi j'ai salué cette mesure, c'est extraordinaire, on parle d'une densification douce. Là, on va modifier le règlement d'urbanisme pour ajouter ce qu'on appelle une unité d'habitation accessoire. Par exemple, tu es propriétaire d'un bungalow, d'une maison unifamiliale, tu veux transformer ton sous-sol, ton grenier, ajouter une mini-maison sur ton terrain pour accueillir tes parents, tes enfants, et aura, eureka, tu vas pouvoir procéder de cette façon. Donc, le concept d'unité d'habitation accessoire va faire en sorte que on va pouvoir destiner à un usage, à se dire à un terrain, plusieurs usages. Ça, c'est intéressant. À Trois-Rivières, on a préféré un crédit de taxe à la densification, alors que dans d'autres villes, je disais ça dans la presse, on dit au promoteur, tu veux densifier, mais tu vas avoir une pénalité pour densifier. Puis tu vas pas densifier de n'importe quelle façon. Alors, vraiment, je trouve que ce pouvoir va donner plus de latitude aux milieux municipaux. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce qu'il va y avoir des citoyens en colère? Assurément. Mais là, ça sera aux élus à faire preuve et avec leur administration du plus grand jugement possible pour à la fois atteindre l'objectif d'un plus grand nombre, de construire un plus grand nombre de logements, mais tout en tenant compte de la vision qu'on veut avoir de la densification et des craintes qui pourraient s'exprimer de la part des citoyens. Ça ne sera pas facile.
Je vais donner un exemple. Montréal, c'est une chose parce que tu as déjà une densité qui est réelle. Pas partout, mais quand même. Mais prends Saint-Bruno, là. Les gens qui vont vivre à Saint-Bruno, là, on a encore l'esprit de la maison unifamiliale, puis du terrain, puis de la cour. Puis c'est pour ça qu'on est allé s'installer là. C'est sûr que quand vous arrivez avec des projets de développement, on dit, voici, dans ce quartier-là, ça va être telle hauteur, puis il va y avoir... C'est pas juste d'accepter que ça soit pas dans ma cour, mais c'est un changement culturel. C'est d'admettre que la maison unifamiliale, ça sera plus ce que c'était.
Mais tu sais que c'est déjà commencé. Il y a beaucoup de gens qui achètent une maison unifamiliale de peu de valeur, j'ai vu ça à Greenfield Park,
oui. La
mettent à terre, construisent un plex.
Exact.
Un plex qui peut être parfois un 6 ou un 8 plex, avec 6 à 8 places de stationnement. Puis des fois, dans certaines municipalités, c'est 1,5 place par logement. Fait que c'est 12 à 16 places de stationnement, de 12 à 14 places de stationnement. Donc, oui, ça peut vraiment, vraiment être un problème. Et là, moi, c'est pour ça que je crois en l'urbanisme. Je crois à la capacité de quelqu'un d'analyser chaque projet pour dire celui-là oui, celui-là non. Mais il faut plus d'urbanisme, par exemple. Il y avait la Chambre de commerce de Québec qui a fait un événement la semaine passée puis qui disait ça exactement. Elle dit, nous autres, à Rimouski, ça prend un temps fou pour avoir une autorisation. Pas parce qu'on est cave, parce qu'on est bureaucrate, parce qu'on aime la paperasse, parce qu'on n'a pas assez de monde en urbanisme. Ça nous prendrait 2 fois, 3 fois plus de personnes au permis, à l'analyse des dossiers, des architectes, etc. Et ce sont des métiers difficiles à combler parce que ils reçoivent plus d'argent au privé. Quand c'est beaucoup plus payant au privé que d'aller travailler pour la municipalité. Alors, il faut faire une entorse à la convention collective, puis il faut accepter d'en engager beaucoup, et il faut analyser les projets. Il y en a des bons des projets, il y en a des maudits pas bons de projets.
J'allais pour dire, c'est déjà payant là, au municipal, parce que c'est payant là pour les au municipal, les employés.
Mais c'est toujours plus payant ailleurs. As-tu remarqué? Moi, je parle avec des magistrats qui me disent qu'ils perdent leurs employés parce qu'ils sont recrutés par les villes, parce que c'est plus payant que au ministère de la Justice. Là, tu me dis que c'est plus payant au privé que de travailler pour la ville, par exemple, dans le domaine de l'urbanisme. Le soleil brille toujours plus fort ailleurs. C'est beau, hein?
Oui, mon Dieu.
C'est comme ça,
politique.
Mais c'est triste.
C'est comme ça. On s'arrête là-dessus. On vous retrouve demain.
C'est 23.